Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Micro Rebelle Hebdo, comme tous les vendredis de 18h à 19h sur micro-rebelle.fr et rediffusé sur Radio PFM 99.9 à Arras. Micro Rebelle propose chaque semaine un agenda social et culturel, une revue d'actualité de presse, des infos sur les luttes, les événements dans le bassin minier ou dans le monde, à travers des interviews, des chroniques et de la musique. Au programme de cette semaine, la revue de presse d'Aurélie, le communiqué de l'association ACAD sur la 5G et deux interviews d'actualité. L'une sur le nucléaire et la prolongation de vie des réacteurs de la centrale de Gravelines et l'autre sur l'islamo-gauchisme. Tout de suite, l'agenda. Alors l'agenda cette semaine sera court, on vous parlera d'une date, samedi 27 février, la manifestation des Gilets jaunes à Lens, place du Cantin, à 13h. Nous relayons maintenant une communication du collectif ACAD, anti-compteur communicant Artois-Douaisis. Il sera question d'expliquer cette semaine notre opposition à la 5G. Vous pouvez évidemment retrouver toutes ces informations sur le site collectif-acad.fr. La 5G, un cadeau empoisonné, est présenté aux yeux du public comme un progrès. Un progrès ? Certainement pas. On nous ment sur le sujet ou on ne dit pas tout. Pour les opérateurs, la 5G permettra le 100% connecté. Ces nouvelles technologies permettront notamment le télétravail et le téléchargement plus rapide des films, ainsi que la promotion des voitures connectées. La culture, l'éducation, la médecine en profiteront. Ce qu'on ne nous dit pas, on aura des antennes hautes et des petites tous les 100 mètres, notamment dans le mobilier urbain, les lampadaires, les concentrateurs. Bref, ces petites antennes ne seront pas visibles, mais dangereuses. Le passage des ondes nécessitera l'abattage de nombreux arbres pour une meilleure réception. Les ondes 5G ne traversent pas les arbres. Au niveau mondial, le réseau nécessitera l'utilisation de 50 000 satellites. C'est ce que commence à faire Elon Musk, le milliardaire américain qui construit des voitures Tesla pour riches et qui ambitionne de nous emmener sur Mars, moyennant paiement évidemment. Il faut savoir que ces satellites vont notamment perturber le travail des météorologues et encombrer un peu plus un ciel déjà bien chargé. Il faudra acheter un nouveau smartphone, ce qui nécessitera encore plus de métaux rares et permettra de piller et polluer un peu plus l'Afrique. Rien qu'à l'échelle de la France, des millions d'appareils au rebut, un gaspillage et ce sera loin d'être un achat gratuit. L'immobilier, maison, terrain, perdra de la valeur s'il est proche d'une antenne. Il y aura un impact sur le vivant, végétal et animal, et des pertes importantes chez les insectes, les oiseaux, etc. Il y aura aussi un impact sur l'humain. L'exposition aux ondes électromagnétiques sera augmentée d'au moins 30%. C'est le même scandale que pour celui des portables déjà évoqué rapidement la semaine dernière dans l'émission Micro Rebelle Hebdo. Les émissions de gaz à effet de serre dues au numérique seront bientôt aussi importantes que celles du parc automobile dans le monde. Il faut savoir aussi que les pouvoirs publics se sont laissés influencer. Les lobbies de l'industrie ont bien fait leur boulot à nos dépens. Cela aura des répercussions sur la santé. Il y aura par exemple et notamment une augmentation des cancers, tumeurs au cerveau, Alzheimer, perte de mémoire, EHS pour électro-hypersensible, nous sommes tous concernés. Particulièrement les enfants, notamment dans le domaine des cancers. D'ailleurs, de nombreux pédiatres alertent sur ces risques. Pour résumer, dans ce domaine, la 5G sera un scandale dans l'avenir, comme l'est devenu celui concernant l'amiante, les OGM, les pesticides et le tabac. Il ne faut pas tarder à réagir. Mais il n'y a pas que cela. Rappelez-vous ce que l'on disait sur le compteur Linky. La 5G, ce sera pire, c'est la porte d'entrée à l'internet des objets dans la maison. C'est l'arrivée à petits pas des robots. Un exemple, en médecine, on pourra opérer à distance sans contact humain. Un avantage pour qui ? Un autre exemple, dans le domaine du télétravail. Cela va se développer et priver le salarié des contacts avec ses collègues. L'humain devra obéir de plus en plus à des machines, les humains seront privés de toute initiative. Il faut avoir en tête que, si on ne bouge pas, on aura quelques individus qui vont commander aux robots. Pour le reste de la population, ils devront obéir aux robots. Sans compter que la consommation d'énergie sera 3 fois plus importante que maintenant. Dans l'éducation nationale, les jeunes seront encore plus connectés. Ajouté à l'utilisation des portables, cela va avoir des conséquences graves. Addiction, violence, pornographie, baisse de niveau. Dans la Silicon Valley, les ingénieurs qui inventent ces machines inscrivent leurs enfants dans des écoles sans tablette. On va aussi développer les services publics à distance sans contact humain. Avec la 5G, demain, on sera tous surveillés, encore plus qu'avec le Linky. 70% du trafic 5G servira pour la télésurveillance, pour la sécurité globale, permettant l'utilisation à grande échelle de la reconnaissance faciale. C'est déjà commencé. Cette technologie est superflue, énergivore. Si on veut se connecter, la 3G suffit largement à nos besoins. Par ailleurs, la fibre optique est aussi performante que la 5G et moins dangereuse pour l'humain. La 5G est incompatible avec la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut savoir que des communes, malgré leurs faibles moyens juridiques, se battent contre ces implantations d'antennes. Par exemple, la commune de Saméon, près d'Orchy, a gagné en première instance contre l'implantation d'une antenne Free. En Vendée, il y a eu un moratoire pour demander l'arrêt d'installation d'antennes. Autre exemple, la chambre administrative de Nantes, en deuxième instance, a débouté Orange au profit de la position de la commune de Plérin. Il faut aussi savoir qu'à Saint-Sylvestre-Pragoulin, dans le Puy-de-Dôme, la propriétaire du Poney Club de Champlon est en guerre contre l'opérateur Orange. Par ailleurs, en Belgique, certaines personnes s'opposent à la 5G. Elles estiment que c'est une expérimentation mondiale sans précédent qui menace l'humanité, la biodiversité et les équilibres planétaires. Bien sûr, il ne faut sûrement pas crier victoire, surtout quand on sait que des communes comme Strasbourg, Lyon ou Bordeaux, qui prétendaient se battre contre la 5G, laissent faire. On peut en dire autant de la ville de Lille. Cette politique d'implantation d'antennes est très ciblée. Par exemple, à Miami, fief de Bill Gates et de Trump, il n'y a aucune antenne 5G. Vous avez dit bizarre ? Comme c'est étrange. Dans un prochain communiqué, nous ferons le point sur l'actualité dans les domaines de la 5G, des compteurs Linky et des objets connectés. Voilà, alors c'était une communication du groupe ACCAD, ACCAD A-C-C-A-D pour Anti-Compteur Communicant Artois Douaisy, que vous pouvez retrouver, comme c'était dit au début, hein, sur leur site collectif-6acad.fr. Alors, à présent, je vous propose d'écouter la revue de presse d'Aurélie. Je cherche le petit jingle. Et c'est parti.
Cette semaine dans Politis, deux articles ont retenu mon attention. Ils se font écho. L'un parle du blues des soignants un an après le début de la pandémie, et le second est une enquête sur le quotidien des hôpitaux dans un établissement d'Île-de-France. Un an après le début de la pandémie du Covid-19, la situation sanitaire reste extrêmement tendue. Les soignants font face aux vices de fonctionnement des hôpitaux et à la logique comptable qui les a fragilisés, peut-on lire dans l'article de Politis. Suppression de lits, restriction de budget, sous-effectifs, en soi, système D. Le 22 février, une infirmière de 51 ans a été jugée pour outrage et rébellion. Le 16 juin dernier, lors d'une manifestation où elle réclamait, je cite, « du fric pour l'hôpital public », elle a jeté des pierres sur les forces de police. Cette altercation montre bien que les soignants ont été poussés à bout, et ils le sont encore aujourd'hui. Rien n'a changé dans les hôpitaux publics. Des beaux discours ont été entendus, des promesses d'investissement dans la santé aussi. Pourtant, alors que nous sommes en février 2021, un an après le début de la crise Covid, rien n'a changé. Les hôpitaux français sont toujours sous pression, et les difficultés auxquelles ils font face sont toujours les mêmes. Pourtant, comme l'a dit Emmanuel Macron, le gouvernement a attendu. Pourtant, entendre ne signifie pas agir. Politis a mené l'enquête pour voir la réalité des hôpitaux. Parce que non, les soignants n'inventent rien. On y lit le témoignage de Magali, infirmière aux urgences. Le calvaire des urgences remonte à plus d'un an. Car déjà en octobre 2019, les urgences manifestaient leur colère dans les hôpitaux. Si des mesures ont été appliquées, comme l'ouverture de plus de salles dédiées au cas Covid, avec plus de lits et du personnel volontaire durant la première vague du coronavirus, aujourd'hui, ces mises en place ont été supprimées, surchargeant alors le travail des infirmiers et des aides-soignants. Comme le dit Nathalie, je cite, « Nous sommes aussi retombés dans les vices du fonctionnement des hôpitaux, avec par exemple une tendance à surcharger de travail les infirmiers et les aides-soignants. » Concernant les salaires, le Ségur de la Santé a annoncé une augmentation de 183 euros pour les praticiennes hospitalières. Une prime de 500 euros a été allouée à ceux qui étaient présents durant la première vague de coronavirus. Toutefois, ces chiffres restent insuffisants et placent la France au 26e rang au classement de l'OCDE pour le niveau de rémunération des personnels hospitaliers. Des améliorations sont donc encore attendues à ce niveau. De plus, les fusions d'hôpitaux, le manque de personnel ne font qu'accentuer les suppressions de lits, notamment en Île-de-France. La crise du Covid aura contraint le gouvernement à investir dans quelques améliorations. Ces améliorations sont toutefois des décisions prises dans l'urgence, prévues sur le court terme, afin de soulager la tension hospitalière. On peut alors dire que rien n'est pour l'instant envisagé à long terme.
Merci beaucoup Aurélie pour ta revue de presse. Alors, pour continuer sur la thématique de l'environnement dont on a parlé tout à l'heure dans la communication du collectif ACAD, nous nous intéressons à présent à la centrale nucléaire de Gravelines. La Voix du Nord l'annonçait récemment, 2021 est l'année des travaux. Alors en effet, les réacteurs arrivent au bout de leur durée de fonctionnement de 40 ans et l'État souhaite les prolonger de 10 ans. Quelle est la réalité du nucléaire? Quelles en sont les alternatives? Pour en parler, nous avons interviewé Alain Vaillant, président de la Fédération Nord Nature Environnement. Donc bonjour Alain Vaillant, vous êtes président de la Fédération Nord Nature Environnement. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous parler de cette fédération s'il vous plaît?
Alors la Fédération Nord Nature Environnement, c'est un regroupement de personnes qui sont adhérentes et d'associations qui sont fédérées. Globalement, on a environ 80 adhérents et une grosse vingtaine d'associations fédérées. Associations de protection de l'environnement qui sont réparties dans le Nord-Pas-de-Calais.
Alors justement, aujourd'hui, on vous a contacté parce que vous intervenez sur plusieurs thématiques liées à l'environnement, vous venez de le dire. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une actualité dont on entend parler, notamment dans le journal La Voix du Nord. On peut lire un article qui se consacre à la centrale nucléaire de Gravelines, où il est dit qu'en 2021, c'était un peu l'année des changements, parce que il y avait une volonté de faire des travaux pour faire en sorte que le réacteur qui avait une durée de vie de 40 ans et qui donc là arrivait à terme, puisse être prolongé de 10 ans. Alors, tout d'abord, techniquement, est-ce que vous pouvez revenir sur ce que c'est qu'une centrale nucléaire?
Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, il faut remonter un peu dans le temps. Tout le monde se rappelle de la bombe atomique qui a explosé à Hiroshima. En fait, c'est un objet dans lequel il y avait de l'uranium et il s'est passé des réactions physiques et chimiques qui ont provoqué une explosion gigantesque avec une émission de radioactivité considérable. Eh bien, dans un réacteur nucléaire, c'est cette réaction chimique-là que l'on effectue au ralenti. Autrement dit, ce qui était explosif à Fukushima, eh bien, à EDF, dans chaque réacteur, hein, à Gravelines, on en a 6, dans chacun des 6, c'est comme ça, et c'est comme ça dans tous les réacteurs nucléaires en fonctionnement en France. Dans chacun de ces réacteurs, les réactions qui s'y passent sont exactement les mêmes que ce que s'est passé dans la bombe d'Hiroshima. Autrement dit, si vous voulez, tout le problème, c'est dans la manière de ralentir cette réaction nucléaire. Alors, bon, il y a différentes méthodes qui ont été développées. Hein. C'est sérieux. Mais déjà, ce n'est pas EDF qui a inventé ces réacteurs. Ces réacteurs fonctionnent sous licence Westinghouse. C'est-à-dire que c'est l'entreprise américaine Westinghouse qui a créé ce type de réacteur et la France a acheté des licences pour en fabriquer chez nous. Et EDF a été chargé à la fois de les fabriquer et de les faire fonctionner. Mais si vous voulez, EDF n'a pas inventé ce réacteur. Il faut que ça soit clair. À EDF, la plupart des ingénieurs sont des gens qui font fonctionner ces réacteurs. Et voilà, bon, ils étaient prévus pour 40 ans d'âge, et à Gravelines, le premier a commencé à fonctionner en 1981, et donc, au bout de 40 ans, normalement, il devrait aller à la casse et être recyclé pour tous ces éléments.
Alors justement, on entend quand même en France plusieurs sons de cloche sur pour ou contre le nucléaire. On sait qu'il y a un bon nombre d'associations et d'ONG qui s'opposent au nucléaire. Oui. On lit toujours dans cet article de La Voix du Nord que, à l'heure actuelle, 70% de l'électricité en France est produite par le nucléaire et qu'il y a une volonté de la France de passer à 50% du nucléaire en 2035. Alors on peut se poser la question, est-ce que la France se donne les moyens concrets pour diminuer cette production en nucléaire quand on voit qu'elle souhaite prolonger la durée de vie de ses réacteurs ?
Ah ben, pour moi, si vous voulez, c'est contradictoire, quoi. Ce qui est prioritaire, ce serait de développer les énergies renouvelables, la production d'électricité d'origine renouvelable et de fermer les réacteurs nucléaires les uns après les autres et les fermer définitivement. Ne pas, si vous voulez, les prolonger jusque 2035 et au-delà.
En effet, on a vu que bon nombre donc, des associations dont je parlais avaient réclamé hein, la fermeture de sites anciens. C'est le cas, par exemple, de Fessenheim. Pourquoi, à votre avis, à Gravelines, ça ne se passe pas comme ça ?
Oh, mais c'est parce que le gouvernement, avec EDF et avec les banquiers, ont décidé de continuer à faire fonctionner les centrales nucléaires. Je vais vous expliquer. En détail, imaginez l'énergie solaire. L'énergie solaire, même dans le Nord-Pas-de-Calais, l'énergie solaire que l'on reçoit, c'est considérable. Pour vous donner un ordre de grandeur, si en 59-62, c'est-à-dire en Nord-Pas-de-Calais, si on remplaçait toutes les surfaces bâties, maisons, écoles, usines, etc., si on les remplaçait par des panneaux photovoltaïques posés au sol, en un, et la centrale nucléaire de Gravelines, c'est la plus grosse d'Europe. C'est pas une petite centrale. Ça veut dire que l'énergie solaire nous permettrait, si vous voulez, en gros, de nous passer, ou presque de nous passer, du photovoltaïque sur les toitures des maisons, des usines, des écoles, etc., ça donnerait des idées d'indépendance aux gens. Si vous voulez, pour vous donner un exemple, sur ma toiture, j'ai 20 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et depuis maintenant 15 ans, je produis chaque année plus d'électricité que ce que je consomme. Ça veut dire que utiliser l'énergie solaire pour développer le photovoltaïque et produire de l'électricité, c'est faisable. Mais à ce moment-là, les gens prennent de l'autonomie. On n'est plus dépendant de fournisseurs d'électricité centralisés. On n'est plus pieds et poings liés devant EDF. C'est une volonté, si vous voulez, des politiques au pouvoir de laisser le pouvoir aux mains des banquiers, des assureurs, des gens qui ont le fric pour qu'ils puissent continuer d'exploiter la population. C'est ça le fond du problème. Parce que des solutions alternatives et propres existent déjà maintenant.
En vous entendant, on imagine que du coup, pour renverser la tendance, il faudrait qu'il y ait un rapport de force assez conséquent. Est-ce que vous le croyez possible, ce rapport de force, et comment y arriver ?
Alors ça, c'est une bonne question. Si vous voulez, je suis écolo depuis une quarantaine d'années. C'est-à-dire que je me suis déjà bagarré contre pas mal de projets que je trouvais insensés. Et bon, je n'ai pas souvent réussi dans mes combats. Donc si vous voulez, ça veut dire changer l'orientation politique de notre gouvernement pour que finalement les citoyens puissent avoir de l'autonomie, et ça ce n'est pas du tout dans les objectifs du gouvernement actuel. Le gouvernement actuel fonctionne dans le cadre de la mondialisation de l'économie, c'est-à-dire le moyen d'enrichir davantage les riches. Et donc, si vous voulez, il y a un moyen de changer ça, c'est au niveau politique.
Et d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous, dans vos expériences au sein de cette fédération Nord Nature Environnement, quels sont les retours que vous avez des gens qui sont pas forcément, qui font pas forcément partie de cette fédération, mais quand vous parlez de nucléaire aux gens autour de vous, quelles sont les réactions que vous avez ? Est-ce que vous sentez qu'il y a plutôt des convictions en faveur ou en défaveur du nucléaire ?
Alors, je pense, si vous voulez, que beaucoup de gens trouvent que le nucléaire, c'est sale. C'est même très sale. Mais, faute de mieux, ils acceptent de courir les risques du nucléaire. Mais, si vous voulez, à l'inverse, s'il y avait un accident nucléaire grave en France, alors l'opinion publique se retournerait complètement et les politiques, à tous les niveaux, seraient obligés de suivre. Parce que si vous voulez, en France, on a une chose qui est bien, c'est l'ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire. C'est en quelque sorte le gendarme du nucléaire. Et cette Autorité de Sûreté du Nucléaire, elle surveille EDF, elle encadre EDF, pour que EDF ne fasse pas de bêtises. Et c'est eux qui interviennent et qui obligent EDF à faire des modifications. Pour dire les choses clairement, c'est pas EDF d'eux-mêmes qui font des modifications pour que ça fonctionne. Eux, ils mettent, a priori, si vous voulez, le réacteur EPR, a priori, ne serait pas plus dangereux qu'un réacteur comme ceux qu'on a à Gravelines, mais le problème, c'est que pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Hein, et ça a coûté très, très cher.
Et alors, est-ce que malgré cet encadrement de ce gendarme, entre guillemets, du nucléaire, est-ce qu'on peut être sûr à 100% du non-risque du nucléaire, ou est-ce que malgré toutes les précautions qui seront imposées, il y aura toujours un risque ?
Ah ben, il y a toujours un un risque. Attendez. Je me suis peut-être mal exprimé, mais il y a toujours un risque. Attendez, une bombe atomique, c'est quand même un truc terrible.
Donc vous, au niveau de la Fédération Nord Nature Environnement, vous êtes plutôt pour une sortie du nucléaire qui,
oui.
J'imagine, si elle se fait, prend plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et puis, il y a aussi la question des déchets radioactifs.
Les déchets radioactifs, alors là, c'est une monstruosité. Et même si on arrêtait le nucléaire ici le plus rapidement possible, on va dire, mettons, en 5 ans ou 10 ans, même si on arrêtait comme ça, eh ben, il y aura des quantités monstrueuses de déchets radioactifs à gérer pour des années, des dizaines d'années, des milliers d'années, et certains des centaines de milliers d'années. Ça veut dire qu'on a fabriqué, si vous voulez, dans les centrales nucléaires, des objets qui tuent, et qui tuent durablement. Alors, on va prendre des précautions, hein. On va prendre des précautions, on va les enfermer, on va ceci, cela, mais quand même.
Merci beaucoup Alain Vaillant. Je précise que vous êtes donc président de la Fédération Nord Nature Environnement.
Oui.
Merci d'avoir répondu à nos questions donc, concernant la centrale nucléaire de Gravelines, le nucléaire en général et les alternatives au nucléaire. On peut retrouver des informations sur votre fédération, sur votre Facebook, et vous avez un site internet, j'imagine.
Oui, on a aussi un site internet, c'est www.nord-nature.org.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Vous êtes toujours dans l'émission Micro-Rebelle Hebdo sur la web radio Micro-Rebelle, rediffusée sur Radio PFM 99.9 à Arras. On vient d'entendre le titre No Easy Fun du groupe Sitar sur son album No Routine, produit par le label de musique indépendant Edison Box Records, basé à Turin en Italie, qui promeut la musique libre. À présent, je vous propose d'écouter l'interview du sociologue Jesse Cormon, qui revient sur ce terme qui fait débat, l'islamo-gauchisme. Dans un premier temps, Jesse Cormon nous expliquera d'où vient ce terme, qui l'utilise et qui vise-t-il à qualifier. Puis dans un second temps, le sociologue reviendra sur le glissement de la disqualification à la discrimination politique illégale et ses conséquences dans les universités. Bonjour Jesse Cormon, merci de répondre aux questions de Micro-Rebelle. Donc pour te présenter quelques mots, tu es sociologue dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Tes sujets de prédilection, si je puisse dire, sont les inégalités et les égalités sociales, les discriminations dans leurs ensembles, sur les rapports sociaux, racisme, sexisme, classisme, homophobie. Tu t'intéresses aussi à tout ce qui est le rapport aux médias, l'éducation populaire, les violences, l'économie, etc. etc. Je ne pourrais pas tout dire là, mais on peut retrouver un peu sur Internet les sujets de tes recherches. Tu as publié plusieurs ouvrages et il y a eu plusieurs entretiens qui ont été retranscrits dans des magazines. Pour n'en citer qu'un, en 2018, on peut dire « discrimination systémique », un terme faussement complexe pour un enjeu populaire du premier plan, aux éditions Actes. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour ta présentation ?
Alors peut-être un point, c'est le lien par rapport au sujet qui nous concerne, là, le lien avec l'université, plus généralement sur ce qui se passe dans la société française. Donc moi je ne suis pas sociologue à l'université, je fais partie de la sociologie qui agit pour les politiques publiques, le secteur associatif et l'éducation spécialisée hors de l'université. Et j'interviens depuis quelques années à l'université comme chargé d'enseignement vacataire sur certaines thématiques à l'université. Donc je suis un observateur comme citoyen, comme tout le monde, des dynamiques des politiques publiques et du fonctionnement de la société française. Et comme sociologue, du coup, je suis un acteur des politiques publiques impliquées et un observateur aussi des liens entre les polémiques médiatiques ou les querelles médiatiques et politiques dans la société en général, la façon dont c'est travaillé par les universités et les chercheurs dans l'université, hors de l'université, et les conséquences qu'il y a concrètement, pratiquement, sur les citoyens et citoyennes dans la société française, et notamment les impacts en matière de santé, d'accès aux droits, à l'égalité et à la justice.
Ok, super. Il me semble avoir lu aussi que, donc évidemment, toi, tu es un acteur de terrain, tu travailles beaucoup avec les habitants et habitantes du territoire. Il me semble que tu as fait un travail, notamment avec Saïd Bouamama, qu'on a interrogé plusieurs fois à Micro-Rebelle, sur des habitants et habitantes de Libercourt, leur rapport aux histoires de migration et de travail dans les mines.
Exactement, oui.
Super. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat aujourd'hui, qui est le terme d'islamo-gauchisme. On l'entend depuis quelques années, dans les médias notamment. Alors certaines l'attribueraient en premier au sociologue pro-israélien Pierre-André Taguieff. Et depuis, des personnes du monde universitaire et de la politique l'utilisent. C'est le cas récemment de la ministre actuelle de l'enseignement supérieur et de l'innovation, Frédéric Vidal, qui qualifié sur CNews le 14 février dernier des courants de recherche dans l'université d'islamo-gauchisme. Alors est-ce que tout d'abord, d'après toi, est-ce que tu peux revenir sur ce que signifie ce terme ? Qu'est-ce qui est désigné par là ou qui est désigné ?
Alors la première chose, c'est que ce terme-là, c'est important de le rappeler, comme l'a fait le CNRS, le Conseil national de la recherche, là en France, du coup, qui a rappelé que ce terme-là n'était pas un concept scientifique. C'est un concept, c'est un mot fourre-tout, c'est une expression politique et idéologique, alors dont on attribue l'ancienneté à Pierre Taguieff à la fin des années 90, début des années 2000. Donc lui qui était un chercheur, du coup, sur le Front National et sur l'extrême droite, qui est un chercheur historiquement à gauche, plutôt proche du Parti Socialiste, et qui a forgé un certain nombre de travaux qui sont très très importants et précieux, et d'autres travaux qui sont très polémiques et discutés, discutables, y compris l'invention de ce terme-là, qui n'a pas eu aucune prise dans le champ universitaire, il n'est pas reconnu depuis 20 ans. Donc ça c'est une première chose. Oui, lui était chercheur mais son concept n'a pas pris. Ensuite, le concept, c'est important de rappeler qui l'utilise et qui le mobilise, parce que du coup on a une absence de ce mot dans la réalité médiatique, politique et scientifique pendant à peu près une quinzaine d'années après qu'il était élaboré par Pierre-André Drégueilleff. C'est le CNRS là qui a fait une étude, le directeur de recherche au CNRS, David Chavalarias, qui a montré, ils ont fait une étude sur près de 290 millions de messages sur Internet, là, avec Politoscope. Et du coup, ils ont montré qui mobilise et utilise ce terme. Et du coup, la conclusion de leur étude, c'est très important de le savoir parce que ça n'est pas neutre. Elle n'est pas mobilisée par l'université et la recherche. Elle est mobilisée par des militants d'extrême droite, des militants de la droite proche des Républicains. Elle a d'abord été utilisée à l'intérieur des luttes des Républicains entre Sarkozy et Fillon dans le cadre de la primaire de la primaire là en 2000 du coup je crois que c'est 15, 16 ou 17 je sais plus 17 peut-être et du coup en fait ce mot-là a été utilisé par Sarkozy pour disqualifier Alain Juppé pardon. Pour le disqualifier politiquement. Donc c'est une arme idéologique de disqualification dans le cadre des luttes habituelles des partis politiques. Et ensuite, ce terme-là, l'étude de Politoscope montre que c'est la majorité des comptes sur les réseaux sociaux qui ont mobilisé ce terme-là, c'est l'extrême droite. Donc ça n'est pas neutre du tout, c'est un mot utilisé par l'extrême droite et par une partie du champ politique et médiatique proche des Républicains. Donc ça, c'est une première chose. Je ne sais pas si ça va, si je réponds à ta question
par rapport à ça.
En tout cas, c'est un terme qui n'est pas reconnu. Le CNRS a pris position là-dessus. Ce n'est pas un mot qui est reconnu scientifiquement, qui n'a pas de réalité scientifique. Alors, elle a une réalité politique dans le sens où les acteurs politiques l'utilisent, mais ce n'est pas un concept reconnu par l'université. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. La deuxième chose, c'est maintenant, que vise à qualifier ce terme d'islamo-gauchisme donc, c'est par ceux qui l'emploient. Parce que du coup, ça c'est important aussi, le terme « isme », quand on rajoute « isme » à un terme, souvent ça vise à identifier une doctrine politique, idéologique, un courant de pensée qui se revendique de ce propre mot. Le terme d'islamo-gauchisme, il n'y a personne, aucun corpus théorique qui existe et qui se réclame de ce terme-là. Il y a maintenant des gens qui s'en réclament dans le sens de retournement du stigmate, vu que c'est un mot qui vise à stigmatiser, inférioriser et disqualifier des adversaires politiques, des personnes reprennent ce mot pour dire « bon bah, si vous dites que quand on dénonce le racisme anti-musulman, l'islamophobie, et qu'on est dans le camp des égalités, qu'on est de gauche, des gens disent « bah du coup on est islamo-gauchiste ». Mais il n'y a personne qui se revendique à proprement parler dans la définition de ceux qui accusent. Ceux qui accusent, dans le terme islamo-gauchisme, il y a deux choses. Donc, gauchistes sont accusés, toutes les personnes de gauche. Et ça, c'est important, c'est qu'il n'y a pas seulement l'accusation d'islamo-gauchisme spécifiquement liée à l'islam. Il y a tous les mouvements de recherche ou des mouvements militants qui s'intéressent aux questions de genre. Les mouvements qui s'intéressent à la question de l'homophobie, de la transphobie, sur les questions de classe sociale aussi, des inégalités entre classes sociales, les gauchistes dénoncés par le terme islamophobie sont accusés également. Donc toute personne de gauche, là, aujourd'hui, est en fait accusée par cette thématique-là. Sur la question de l'islam, c'est important d'identifier qu'on interroge l'islam en général, là, pas une fraction terroriste ou réactionnaire ou d'extrême droite de l'islam, c'est l'ensemble de l'islam qui est pointé du doigt, ce qui pose un grand problème, que ce soit en République, en démocratie, tous les musulmans sont désignés par cette expression. Et là, il faut le resituer dans le contexte de la désignation des musulmans comme bouc émissaire et comme ennemi de l'intérieur depuis une vingtaine, trentaine d'années. La démarche de construction des musulmans comme ennemi de l'intérieur, elle a d'abord commencé par les terroristes, d'abord, dans les années 90-2000, qui, eux, se revendiquaient de l'islam. Donc ces terroristes-là ont été disqualifiés, et bon, bah, ça a raison, hein. ces fractions-là étaient des courants réactionnaires. Puis ensuite, on est passé à l'islamisme politique, qui est déjà une catégorie beaucoup plus compliquée, qui est beaucoup plus floue, puisqu'on peut y mettre à la fois des militants politiques qui se revendiquent de l'islam, qui sont d'extrême droite, qui sont de droite, de centre droit, de centre gauche, voire d'extrême gauche. Et du coup, là, on a un problème à qualifier l'ensemble des personnes de confession musulmane souhaitant s'impliquer dans la vie politique, défendre leur projet de société politique, etc. On ne va pas forcément disqualifier l'ensemble des chrétiens croyants qui se revendiquent de la religion chrétienne et qui peuvent être d'extrême droite, de centre-gauche et d'extrême-gauche, puisqu'il y a aussi des chrétiens de gauche et d'extrême-gauche. Pareil sur les juifs, on ne va pas disqualifier les juifs dans leur globalité, qui, à partir de leur religion, vont vouloir s'impliquer dans la société française. Je rappelle qu'en France, on a le droit, avec la laïcité, d'être croyant, d'être pratiquant et d'être citoyen reconnu dans l'entièreté de ses droits politiques. Ce qui pose la question, ce qui est problématique, c'est la disqualification d'acteurs qui s'impliquent au nom de leur croyance ou en plus de leur croyance. De mon point de vue, ce qui est problématique, c'est lorsque des acteurs engagés politiquement, qu'ils soient non-croyants ou croyants, c'est la question de la réalisation de crimes, de délits, que ce soit de l'injure, du harcèlement politique, moral ou de l'attentat terroriste. Ça, c'est ce qui pose problème. C'est les actes d'une personne ou ses propos s'ils sortent du cadre de la liberté d'expression en France. Donc je ne sais pas si je suis clair sur ce point. On a un problème à disqualifier l'ensemble d'un groupe social au nom du seul fait de son adhésion, par exemple, à la religion musulmane. Ça, c'est interdit en France, en fait. Tout simplement, c'est illégal. Et donc, du coup, la désignation du terme islamo-gauchiste, c'est une qualification idéologique et politique, c'est une arme de disqualification. Maintenant, il y a deux choses qui est interpellant par rapport à ça. Du côté de ceux qui l'emploient, c'est la construction d'une menace et d'une accusation, qui est une accusation imaginaire, puisqu'elle viserait à penser qu'il y a à gauche et parmi l'ensemble de la population musulmane une adhésion au projet d'attentat terroriste, par exemple, et d'une collusion entre terroristes musulmans d'extrême droite et l'ensemble de militants antiracistes, antifascistes, qui luttent contre l'islamophobie, qui luttent pour les égalités, qui seraient de connivence avec les projets d'attentats terroristes. Ça, c'est un autre élément factuel qu'il faut rappeler. Il n'y a aucune organisation politique de gauche qui est accusée d'islamo-gauchiste. Je rappelle qu'elle est assez large, puisque Europe Écologie Les Verts est visée, le Parti communiste français est visé dans ses accusations, la France insoumise est visée dans ses accusations, une partie du mouvement communiste libertaire, anarchiste, anarcho-syndicaliste, en dehors des partis politiques que j'ai mentionnés, des courants, sont visés aussi. Toute une partie des mouvances antiracistes, du coup, afro-descendants, issus de l'immigration coloniale, sont visés aussi. Une partie des mouvements LGBT qui sont aussi à lutter contre l'islamophobie, la négrophobie, etc., sont visés. En tout cas, du coup, aucun de ces mouvements ne s'est solidarisé avec les terroristes. Il y a eu des déclarations dans tous les groupes et tous les syndicats. CGT s'est visé aussi. Sud est visé, le syndicat Sud est visé aussi, la CNT est visée aussi. En fait, il y a absolument toutes les forces syndicales, politiques ou les collectifs de gauche et d'extrême gauche qui sont visés par cette accusation-là. Aucune de ces organisations n'a réalisé d'écrits, de documents, de communiqués soutenant le terrorisme extrémiste d'extrême droite musulmane. Les Daesh, Al-Qaïda, etc. Il n'y en a aucun qui s'en est revendiqué. Donc l'accusation, là, elle est mensongère, puisqu'elle vise à faire croire qu'il y a une collusion politique, une adhésion entre des groupes de gauche avec cette extrême droite, et même une adhésion, du coup, de l'ensemble des musulmans qui adhéreraient, du coup, à l'extrême droite terroriste musulmane. Je rappelle que l'extrême droite musulmane est minoritaire parmi les musulmans. Il y a des musulmans réactionnaires de droite, de centre, etc., qu'on peut critiquer pour ces raisons-là, mais par exemple, qui ne sont pas en alliance avec Daesh, Al-Qaïda. L'essentiel des musulmans en France et dans le monde ne rejoignent pas les projets terroristes d'Al-Qaïda, Daesh ou du wahhabisme en Arabie Saoudite, par exemple.
En t'écoutant, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une sorte d'argument qui est utilisé par le pouvoir en place, qu'il soit politique, économique ou autre, pour discréditer en fait tous les courants politiques de pensée, d'action qui en fait critiquent d'une certaine manière les politiques qui sont mises en œuvre et qui touchent donc à des sujets très, très larges, comme tu viens de l'évoquer. C'est un peu une manière de discréditer et de faire taire, comme tu le disais, avec un terme qui n'a aucune reconnaissance scientifique.
Oui, tout à fait. Alors du coup, il y a une chose qui n'est pas problématique dans ce que tu viens de dire, c'est la démocratie et la politique, après tout, et même le champ universitaire. Il y a des conflits d'intérêts, des conflits scientifiques, des conflits politiques, des conflits idéologiques, ça c'est normal en démocratie. Une démocratie fonctionne, y compris avec ce qu'on appelle l'injure rhétorique, parce que l'islamo-gauchisme c'est ce qu'on appelle une injure rhétorique, c'est des stratégies de disqualification de l'adversaire, de caricaturer l'autre, etc. Ça, il n'y a pas de problème en fait finalement. C'est la politique qui vise à faire ça. La disqualification, après tout, ça peut faire partie des armes en démocratie. Donc ça, c'est pas forcément un problème. Ce qui devient problématique, c'est lorsque, du coup, de la simple disqualification et de la joute verbale et politique classique en démocratie, on arrive à un autre processus qui, celui-là, est illégal et anormal. La discrimination politique est interdite en France. C'est interdit. Le harcèlement moral et politique, c'est interdit. Donc ça, ce sont deux choses qui sont d'une autre nature. Viser à éliminer un adversaire politique, le disqualifier professionnellement, le blacklister, l'empêcher d'avoir des financements, essayer de neutraliser, d'empêcher des productions intellectuelles, de censure, des logiques de censure, ça c'est des choses qui sont inadmissibles effectivement en démocratie. Donc là il y a deux distinctions, si je peux être clair par rapport à ça. Il y en a une qui est la lutte idéologique habituelle, celle-là elle n'est pas problématique. La lutte scientifique, le débat argumenté, l'analyse, y compris des analyses parfois, on sait que dans le champ universitaire aussi, les luttes universitaires se font pas de cadeaux, c'est assez compliqué. Ce qui est la logique universitaire à la différence de la logique politique, en politique, le mensonge peut être utilisé dans le cadre de la lutte. En science, le mensonge est inacceptable. Le mensonge n'est pas possible. La disqualification d'un adversaire peut se faire, mais elle ne peut pas être basée sur la question. La science essaie d'établir des faits, essaie de regrouper des faits. Et du coup, on ne peut pas se baser ni sur des fantasmes, c'est ce que le CNRS a indiqué avec son étude sur l'islamo-gauchisme. Quand le CNRS indique que l'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique, encore moins dans le monde académique, c'est qu'effectivement c'est un fantasme. En science, on peut étudier des fantasmes, mais on ne base pas une vérité scientifique, entre guillemets, sur la base d'un fantasme, sur des théories complotistes, puisque là, on est aussi dans ce cadre-là, le gouvernement manie une rhétorique du complot. Et là, lorsqu'un État, un État démocratique libéral, néolibéral, alors le caractère démocratique peut se discuter, en tout cas c'est une république démocratique, du coup la France constitutionnellement elle est affichée comme telle, lorsqu'un État commence à s'emparer d'une partie de la rhétorique issue de l'extrême droite, de la droite, pour confondre injure rhétorique, logique de stigmatisation avec une logique de vérité scientifique, et une arme de disqualification de la recherche pour contrôler politiquement la recherche, là on est sur un niveau totalement différent qui est effectivement inacceptable. Le troisième niveau qui est problématique actuellement, c'est la commande d'une ministre, parce qu'à la limite qu'elle emploie des mots qui sont polémiques, pas scientifiques, bon, elle fait de la politique. Ce qui est problématique dans ce qui vient d'arriver là récemment, c'est la demande d'une ministre de réaliser une enquête de police de la pensée, qui est qualifiée de néo-macartisme par un certain nombre de chercheurs, etc., qui vise à vouloir contrôler les productions idéologiques, et y compris pour avoir une incidence en matière de financement, voire peut-être de répression professionnelle. Ça, c'est quelque chose qui est grave et qui est nouveau. Je dis qu'il est grave et qui est nouveau, c'est ce que dénonce la commission des présidents d'Université de France, le CNRS, un certain nombre de chercheurs. Il y a ce que les universités appellent les libertés académiques. Elles sont fondamentales, rappelées par l'Organisation des Nations Unies depuis 1948. Il y a une indépendance des universités en démocratie avec le pouvoir politique. Et là, on a une rupture qui est dénoncé par les plusieurs organes représentatifs de l'université française. Là, il y a une vraie rupture hein, actuellement. C'est plus juste un débat démocratique, un débat politique, un débat académique. Il y a une rupture de confiance du monde universitaire qui ne reconnaît plus l'autorité de la ministre avec ce genre de démarche-là. Il y a d'ailleurs des appels à la démission qui, dans une pétition des chercheurs, des enseignants, des universités, qui regroupe plus de 20 000 personnes là au jour d'aujourd'hui. En une semaine, 20 000 personnes, individus, engagent leur nom pour demander la démission. Sachant que la ministre, elle était déjà désavouée dès le mois de novembre pour toute une autre série de raisons. On est aussi dans une actualité politique où l'université explose. Elle explose de précarité, elle explose aussi des conséquences du confinement sur la l'apparition du coup d'une surmortalité, d'un taux de suicide qui explose, de burn-out étudiants, d'une difficulté des professionnels de l'université effectivement de faire face à leur mission de service public. Et là, on a en fait un agenda politique autour du terme islamophobie qui est instrumentalisé pour masquer une rupture plus profonde du monde de l'université avec sa propre ministre. Et donc ça aussi, il faut le resituer dans ce cadre-là. Il y a une lutte idéologique d'un côté et il y a une rupture de confiance entre le monde universitaire et une série de syndicats ne reconnaissent plus la ministre comme étant légitime. Et donc le dernier élément, c'est quelque chose qui est plus inquiétant, c'est la question de la place du droit des sciences à être critique des pouvoirs publics en démocratie, là en France actuellement. Et là, on a alors quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est les sciences sociales et notamment la sociologie là, qui est visée, mais pas seulement, mais notamment ces sciences-là. Bon, c'est pas nouveau que la sociologie est visée par les stratégies des droites réactionnaires, depuis par exemple la création des sciences économiques et sociales dans les lycées généraux, dans les alentours des années de mai 68, le patronat veut disqualifier, empêcher, et la droite veut retirer des programmes d'enseignement scolaire les sciences économiques et sociales. Donc ça, c'est pas nouveau. La critique du patronat des sciences qui analyse le harcèlement moral en entreprise, les dynamiques de classe sociale, bon, ça, c'est pas nouveau, en fait. Pareil, le fait que des courants réactionnaires, du point de vue du patriarcat, les courants masculinistes, souhaitent disqualifier les mouvements féministes, c'est pas nouveau, ça, non plus. Le fait que une partie des fractions homophobes, transphobes de la société veulent disqualifier les luttes à la fois académiques et scientifiques d'études de l'homophobie et de la transphobie, mais aussi des mouvements militants qui veulent faire avancer l'égalité, ça non plus, ça n'est pas nouveau. La disqualification des citoyens ou des militants qui veulent dénoncer l'islamophobie et les discriminations islamophobes, tout ça, ça n'est pas nouveau, ça fait partie du fonctionnement de la démocratie. Ce qui est nouveau, c'est de vouloir effectivement faire taire à la fois les citoyens qui portent des revendications égalitaires qui sont conformes aux lois françaises et qui veulent dénoncer les illégalismes de la société française et parfois les illégalismes, y compris de l'État français ou d'une partie du personnel médiatique. Ça, on a un vrai problème de ne plus avoir le droit de pouvoir. Je parle de droit là, pas dans le sens individuellement, j'ai pas le droit d'exprimer mon opinion. S'il y a une répression économique, politique, judiciaire d'individus qui émettent une analyse critique de dénonciation de comportements ou de paroles, de pratiques discriminatoires, là on a un vrai problème d'inversion de la délinquance. Ceux qui critiquent la délinquance, puisque le racisme est un délit, je le rappelle, la discrimination est un délit, le harcèlement moral et politique est un délit. Ceux qui dénoncent des délits, là je prends le champ militant, ou ceux qui analysent des délits ou des dynamiques inégalitaires ou discriminatoires, s'ils subissent une répression ou elles subissent une répression dans la société, là on a un vrai problème d'inversion de la dangerosité d'une dynamique au niveau de la société. J'espère être clair sur cet aspect-là. Et l'aspect qui est très inquiétant, c'est le fait que de ce point de vue-là, du point de vue de l'intrusion, de la volonté de contrôle de l'État, des productions académiques et universitaires, d'entraver les libertés académiques, comme elles sont nommées, on a une modification du positionnement de l'État français, là, cette année, dans le contrôle des productions universitaires. Il y avait déjà eu des tentatives auparavant, mais c'était des tentatives d'influence idéologique et politique. Là, de vouloir utiliser les instances universitaires de contrôle des productions universitaires, piloté et dirigé par l'État français, là on a une vraie rupture historique, j'attire vraiment votre attention là-dessus. C'est pour ça qu'une partie des instances universitaires s'inquiète de cette dérive de l'État français, de cette tentation de l'État français qui les ferait. Il y a même le président de la Sorbonne qui s'en est inquiété. Le président de la Sorbonne, avec d'autres, ont indiqué que du coup, pour le moment, les États qui essayent de contrôler les productions académiques avec des logiques de répression, de harcèlement, de discrimination, c'est la Russie qui veut contrôler les productions, c'est la Hongrie qui est alors d'extrême droite néolibérale, etc. On a le Brésil qui le commet également. On a toute une série de pays qui sont effectivement réactionnaires et qui ont des dérives autoritaires, voire fascisantes, parfois avec des alliances fascistes, des groupes d'extrême droite repérés qu'on peut analyser comme fascistes, y compris néo-nazis, etc. Et donc là, le fait que la France, qui n'est pas un pays fasciste, se rallie à des pratiques autoritaires de ce type-là, on est dans une modification du positionnement de l'État français qui est bien loin de l'idéal affiché républicain, des lois françaises républicaines et d'un idéal démocratique qui respecte non seulement la liberté d'expression critique, la liberté d'expression scientifique, la liberté des productions universitaires et académiques, le droit de l'ajoute verbale ou même de l'analyse des faits. Là, on a une vraie modification qui est très très inquiétante et c'est pour ça que le gouvernement est en train de perdre sur cette thématique-là. Il a perdu son alliance et sa légitimité avec le champ universitaire.
Micro-Rebelle Hebdo est terminé. Retrouvez l'intégralité des interviews sur notre site internet www.micro-rebelle.fr. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de l'actualité sociale et des reportages.